Mais pour l'heure, nous allons partir. Vous voyez, il y a déjà un avant-goût de ce que vous verrez dans un mois, puisqu'on voit, c'est peut-être pas le soleil, c'est peut-être pas la lune, mais enfin, c'est quelque chose qui ressemble à une éclipse, hein, même partielle. Donc, c'est cela dont va vous parler Annie Baglin. Annie Baglin est chercheur à l'Observatoire, ou chercheuse peut-être aujourd'hui, je ne sais plus comment on dit. C'est comme je veux, d'accord. À l'Observatoire de Paris-Meudon, section de Meudon, au département d'études spatiales, si j'ai bien compris, c'est un petit peu plus compliqué, mais tu préciseras si tu veux. Et en tout cas, elle dirige donc là, du coup, pour le, je pense, l'aspect français, parce qu'il y a probablement des collaborateurs internationaux, donc directeur du projet Coro en France. Voilà. Merci Annie, je te laisse la parole.
Merci Daniel, je suis contente de partager cette heure avec vous. Donc, comme vous l'a dit Daniel Kuhn, je suis responsable scientifique de cette expérience dont je vais vous parler maintenant, qui s'appelle donc le projet Coro, qui est un projet donc de satellite dont nous avons eu l'initiative il y a déjà un certain nombre d'années et qui maintenant est en cours de réalisation avec, comme l'a dit Daniel, une très forte participation française. Nous sommes globalement responsables de l'ensemble de l'expérience, mais nous avons, comme vous le verrez dans mon exposé, un certain nombre de collaborateurs étrangers. Alors, nous avons l'habitude de dire que Coro a été conçu pour voir l'intérieur des étoiles, pour deux objectifs, voir l'intérieur des étoiles et aussi découvrir des petites planètes à travers... Pardon. Des éclipses que nous appellerons d'ailleurs plutôt des transits dans cet exposé. Alors, Coro s'appelle, enfin, le nom Coro est en fait une espèce d'acronyme et surtout un hommage au peintre français. Et vous verrez dans la suite pourquoi Coro. Coro, c'est convection, rotation et transit planétaire. C'est tout le programme de cette affaire. Alors, donc, nous disions que Coro est un. En fait, c'est un mini-satellite, c'est-à-dire c'est un satellite de taille intermédiaire pour les satellites scientifiques qui sont lancés actuellement, ni un tout petit qu'on appelle micro, ni une grosse mission comme telle que celles qui sont lancées en général par l'Agence spatiale européenne ou par la NASA. Coro sera, je vais essayer de vous l'expliquer au cours de cet exposé, une première mondiale si nous tenons nos promesses, et en particulier si nous n'avons pas de difficultés dans le développement de l'expérience et que le lancement que nous avons prévu courant 2005 est bien tenu. Coro est une expérience qui a très, très originale, qui a pour objectif de mesurer avec une très très grande précision, mais on le verra tout à l'heure, c'est plusieurs dizaines, disons une centaine de fois, même parfois mille fois plus précis que ce qu'on a fait jusqu'à présent, et pendant très longtemps, et quasiment continuellement, les variations d'éclat des étoiles. Et en fait, dans le domaine qui est notre domaine classique, accessible à nos yeux, que l'on appelle traditionnellement le domaine visible. Et donc, comme je vous l'ai déjà un petit peu dit, Coro s'inscrit autour de deux programmes scientifiques principaux, qui vont être de détecter les vibrations des étoiles, qui vont produire des variations d'éclat, comme celles qu'on connaît déjà sur le Soleil. Et ceci nous permettra, je vais essayer de vous l'expliquer, de comprendre un petit peu mieux que nous le faisons actuellement la structure des étoiles, la structure interne. Le deuxième objectif scientifique, aussi important que le premier, donc, c'est la recherche des planètes en transit, comme c'était un petit peu représenté sur le premier, suggéré sur la première vue. Alors, donc mon exposé va se découper en essentiellement deux parties. Je vais d'abord vous parler des programmes scientifiques, de ce que nous savons jusqu'à maintenant et ce que nous espérons apprendre avec Coro sur ces deux sujets qui sont relativement disjoints. Mais vous comprendrez qu'ils sont disjoints, mais de fait, ils sont rassemblés dans une même expérience parce qu'ils requièrent les mêmes techniques. Et donc, la deuxième partie de mon exposé sera plutôt consacrée à la description de l'expérience, de la mission dans son ensemble et du déroulement que nous prévoyons pour le développement. Donc, la première partie donc, du sujet, enfin, des programmes scientifiques, concerne, comme je vous l'ai déjà suggéré, les intérieurs stellaires. Alors, les intérieurs stellaires ne nous sont pas directement accessibles. La seule étoile pour laquelle on ne voit, qu'on observe facilement une certaine structure, c'est le Soleil, dont on connaît bien la surface, mais en fait, on ne connaît pas du tout l'intérieur du Soleil. On commence à observer les structures superficielles d'un certain nombre d'étoiles pas trop lointaines et on espère faire d'énormes progrès dans les années qui viennent sur la capacité de faire des images de quelques étoiles brillantes. Mais ce sera toujours la surface. Mais pourtant, on sait, parce qu'on a observé beaucoup d'étoiles et parce qu'on a essayé d'interpréter les observations, on pense que l'intérieur des étoiles est un milieu physique extrêmement complexe, avec une stratification compliquée, des zones très différentes, comme c'est suggéré sur ce dessin d'artiste. Est-ce qu'on voit, Oui. Donc des zones superficielles, des zones plus profondes. Dans le Soleil, on sait qu'au centre, il y a un cœur dans lequel il y a des réactions nucléaires. Donc cette structure est certainement très complexe. Il existe à l'intérieur des étoiles des conditions physiques tout à fait extrêmes qui sont pour le moment quasiment inatteignables sur Terre, ce qui fait des étoiles, si on arrive à les observer convenablement, des laboratoires de physique pour faire de la physique dans des milieux plus extrêmes, ce qui aura des conséquences sur une physique plus classique à l'intérieur dans l'environnement terrestre, disons. Alors, pourquoi c'est très intéressant de connaître le cœur des étoiles, malgré cette difficulté que l'information qui nous vient du cœur des étoiles n'est pas extrêmement facile à interpréter? Eh bien, parce que c'est dans le cœur des étoiles qu'en fait se construit l'évolution de l'univers. Alors, j'ai essayé par ce petit schéma qui est en fait dû à notre père à tous les astrophysiciens français depuis un certain temps, Yves Richatzmann, ce petit graphique essaie de suggérer quel est le cycle de la matière dans l'univers. Nous allons commencer par une étoile. Nous allons commencer plutôt par des nuages de matière très peu dense, dans lesquels se forment des condensations, des petits grumeaux. Ces condensations vont se contracter, elles vont petit à petit fabriquer une sorte de disque avec un noyau central. Ce noyau central va devenir une étoile qui va évoluer et dans le cœur de l'étoile, donc, vont se produire comme, et ça je pense qu'on en est maintenant, depuis 50 ans, on en est tout à fait convaincu, des réactions nucléaires qui vont faire évoluer la composition chimique. Dans le Soleil, actuellement, on transforme de l'hydrogène en hélium. Dans d'autres types d'étoiles, on fabrique des éléments que les astrophysiciens appellent les éléments beaucoup plus lourds, du calcium, de l'oxygène, du néon et jusqu'à du fer. Donc tous ces éléments qui en fait se retrouvent sur Terre. Ensuite, au cours de l'évolution de l'étoile, elle va se débarrasser d'une partie de sa matière sous forme assez douce, qu'on peut appeler les vents, ou sous forme d'explosion. Et toute cette matière rejetée par l'étoile va se remélanger dans le milieu ambiant pour reconstituer des nuages de matière qui, eux, seront à nouveau à l'origine de nouvelles étoiles. Donc, vous voyez que la matière, en fait, passe régulièrement à l'intérieur du cœur des étoiles et c'est là qu'elle est transformée et c'est là que sont fabriqués les éléments que nous retrouvons sur les planètes et de façon plus générale dans toutes les générations d'étoiles successives. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le cœur des étoiles est intéressant aussi parce que les conditions physiques qui y règnent en font le seul endroit où on peut comprendre la physique à des températures de l'ordre de millions de degrés et des densités qui peuvent aller aussi jusqu'à des millions de grammes par centimètre cube. Bon, mais comment obtenir de l'information sur les régions centrales des étoiles qui nous sont fortement qui sont difficiles à l'observation et qui ne sont pas accessibles à l'observation directe, puisque l'énergie qui est produite à l'intérieur sort après beaucoup de transformations à la surface, et nous ne recevons que les photons des étoiles, la lumière qui est émise par la surface. Donc la sismologie stellaire, c'est un outil, en fait, qui va nous permettre de voir et de mesurer les propriétés physiques à l'intérieur des étoiles, et grâce à l'observation de leurs vibrations. La sismologie stellaire n'est pas différente dans son principe de la sismologie terrestre. Il s'agit d'observer les vibrations, les caractéristiques des vibrations d'une étoile, et d'en déduire des informations sur le milieu qui les a émis, le milieu dans lequel ces vibrations se sont propagées. Vous savez, c'est une expérience quotidienne de s'apercevoir que quand une assiette est fêlée, elle ne sonne plus que quand elle est de la même façon que quand elle n'était pas fêlée. Et tous les instruments de musique, en fait, sont en fait, d'une certaine façon, répondent à cette question. Les sons qu'ils émettent, les vibrations qu'ils sont capables de générer, dépendent de leur structure, de leur densité ou bien de leur taille, donc de leur propriété physique. Eh bien, en fait, les étoiles, c'est la même chose. Donc, les étoiles vont vibrer comme la Terre vibre, parce qu'elles sont, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, parfois soumises à des mouvements internes. Ces mouvements internes vont produire des vibrations, et ce que nous allons faire, c'est essayer donc de détecter ces vibrations qui sont très faibles, et à partir de cela, d'apprendre des choses sur leur structure. Alors, pour se dire un peu ce que c'est que des vibrations, enfin des ondes qui se propagent à l'intérieur des étoiles, bon, ce petit graphique vous montre différentes direction de propagation d'ondes à l'intérieur des étoiles qui se réfléchissent, se réfractent en profondeur parce que la densité est plus grande à l'intérieur de l'étoile qu'à l'extérieur, et qui vont se réfléchir à la surface. Et il y a toutes sortes d'ondes qui vont pouvoir faire ce petit jeu, se déplacer. Certaines et chacune d'entre elles va avoir des propriétés différentes, et les propriétés essentiellement, c'est sa période, sa fréquence, ce sont des phénomènes périodiques, donc la principale caractéristique va être la fréquence ou l'inverse de la fréquence que l'on appelle la période. Donc ce sont ces choses que nous allons essayer de détecter. Alors, quelle est la conséquence sur l'éclat d'une étoile, en fait ? Eh bien, à ces vibrations vont être associées des variations de l'éclat de l'étoile, de sa température à la surface, qui va produire des variations de son éclat. Et ce sont les variations de l'éclat que nous allons chercher à observer. Alors, ce petit graphique tente de vous faire percevoir qu'une onde à l'intérieur d'une étoile, c'est un peu comme une onde à la surface d'un lac, mais à l'intérieur d'une boule, mais qu'en même temps, à la surface, il va y avoir des variations de température. Disons par exemple que le jaune sera plus chaud que le rouge, et que ces variations de température à la surface, nous allons essayer de les mesurer. Elles auront la même fréquence que les ondes à l'intérieur. Alors, pour vous donner une petite idée de ce que ça peut être l'oscillation d'une étoile, voilà évidemment grandit énormément, enfin les amplitudes de ces oscillations sont multipliées probablement par quelque chose comme un million, et vous voyez qu'il s'agit d'une distorsion, d'une déformation de l'ensemble de l'étoile, pas simplement de sa surface, et périodiquement, et donc il y en a en fait, là je vous ai donné deux petits exemples simples, mais en fait, il y a beaucoup d'ondes, comme dans un instrument de musique, et c'est la superposition de ces ondes que nous allons essayer d'observer. Alors, ces ondes, en fait, ont des structures à la surface assez complexes, mais bien comprises et bien connues, parce que tout ce travail a aussi été fait sur la Terre. Il y a certains modes d'oscillation, nous appelons ça des modes d'oscillation, qui, en fait, ont une structure un peu qui coupe l'étoile en tranches. Il y en a d'autres, au contraire, où il y a une plus grande complexité, à la fois des méridiens, des parallèles qui sont concernés, ou bien encore simplement des méridiens et toutes sortes de possibilités. Donc, ces déformations vont donner lieu à des variations périodiques, et c'est ces variations que nous mesurons. Donc, on peut mesurer de deux façons différentes. On peut essayer de mesurer les mouvements. En fait, on va mesurer les vitesses à la surface, les variations de vitesse à la surface, ou on va mesurer les variations d'éclat. Alors, l'expérience Corot, on y viendra tout à l'heure, ne mesure que des variations d'éclat ou de luminosité. Mais il y a, en particulier à propos du Soleil, des mesures qui se font aussi en vitesse, en spectroscopie, grâce à l'effet Doppler. Alors, comme les amplitudes de ces modes sont très faibles, il faudra donc, pour les mesurer, une très grande précision, et puis observer le plus longtemps possible, puisque c'est un phénomène périodique, il faut l'observer un grand nombre de fois pour bien le comprendre. Alors, en fait, nous avons un guide extrêmement précieux pour préparer l'observation des vibrations des étoiles, qui est le Soleil. Évidemment, le Soleil est très près de nous, il est beaucoup plus facile à observer. Donc, on a fait maintenant, depuis 20 ans, on fait de la sismologie du Soleil, et on a observé des millions de modes d'oscillation différents, des millions de fréquences différentes dans le Soleil. Ceci est un petit peu technique, mais pour les gens qui ont l'habitude, il s'agit là d'un graphique qui représente ce qu'on appelle une transformée de Fourier, c'est-à-dire qu'on a une série temporelle et on analyse toutes les fréquences qui sont présentes dans cette série, et à chaque fréquence correspond un pic. C'est donc une oscillation, et l'échelle verticale est proportionnelle à l'amplitude de ce mode. Donc ça c'est... Et en fait, donc on a sur le Soleil observé pendant longtemps avec beaucoup de précision, et une précision telle que même lorsqu'on agrandit cette échelle, là, des fréquences, on voit qu'on est capable d'observer énormément de détails, des pics très serrés avec des structures. Grâce à tout cela, donc, alors dans le Soleil, les périodes de ces oscillations sont de l'ordre de 5 minutes à peu près. Mais elle varie entre 2 et 20 minutes, même peut-être un peu plus parfois. Et leurs amplitudes sont extrêmement faibles. Elles sont de quelques millionièmes, donc très difficiles à détecter. Et elles ont des durées de vie. Chaque mode dure à peu près de 3 à 10 jours. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette information sur ces millions de modes a permis de comprendre complètement la structure interne du Soleil, mais du Soleil seulement. Pour illustrer cela, peut-être un graphique un petit peu compliqué à comprendre, mais on va essayer de l'expliquer. Où est mon truc? Voilà. Il s'agit de vous faire comprendre qu'actuellement, nous connaissons la température à l'intérieur du Soleil avec une précision meilleure que 4 millièmes partout, sauf dans les régions extrêmement centrales. Alors, pour lire ce graphique, il faut comprendre que l'axe horizontal, c'est le rayon du Soleil. Le rayon, ça, c'est le rayon maximum. Hein, ça, c'est 40% du rayon, 20% du rayon, etc. Et en ordonnée, est indiqué l'écart entre ce que nous sommes capables, avec notre connaissance actuelle, nos modèles de Soleil, ce que nous sommes capables de calculer, et ce que nous mesurons grâce aux observations de ces millions de fréquences. Et vous voyez que l'écart entre le modèle et la mesure est toujours inférieur à 4 millièmes. Donc nous connaissons parfaitement bien l'intérieur du Soleil, sauf les régions très centrales. Et pourquoi sauf les régions très centrales? Parce qu'il y a très peu de vibrations qui vont vraiment jusqu'au centre du Soleil. Donc on a très peu d'informations sur cette région-là. On a aussi pu, grâce à cela, mesurer pour la première fois l'état de rotation du Soleil. Alors ça, c'est une coupe méridienne du Soleil, dans laquelle on a porté les régions qui tournent plus vite en rouge et les régions qui tournent moins vite en bleu. Et le résultat extraordinaire auquel on est arrivé et que l'on n'attendait pas, Enfin, on savait qu'à la surface du Soleil, les régions équatoriales tournent plus vite que le pôle. Ça, on le savait, pour vraiment la surface. On savait, et en revanche, on ne savait pas comment cette rotation se propageait à l'intérieur. On s'est aperçu qu'il y avait une zone dans laquelle il y avait des grosses différences de rotation. C'est la zone qu'on appelle la zone convective, qui est animée de mouvements turbulents très importants. Et puis, à l'intérieur de cette zone, le Soleil tourne comme un corps solide. Là, une fois, de la même façon que pour les températures, on n'a pas d'informations sur la région centrale parce qu'il n'y a pas de vibrations qui rentrent suffisamment profondément à l'intérieur pour qu'on puisse en tirer des informations. Donc, en fait, on commence à connaître très très bien le Soleil. Et même si on a bien compris la variation de température du Soleil, on n'a toujours pas compris pourquoi cette répartition de la rotation interne du Soleil, et en particulier le fait que l'intérieur du Soleil tourne comme un corps solide. C'est quelque chose qui reste à comprendre. Alors, comment on a fait ça dans le cas du Soleil? Bien, on a observé pendant très longtemps et continuellement. Alors, dans le cas du Soleil, comme le Soleil est proche de nous et très brillant, on peut observer sur la Terre, mais pour observer continuellement, il faut utiliser des instruments répartis régulièrement autour du globe. C'est ce qu'on appelle des réseaux multisites. Ça, c'est l'exemple du réseau Gong, qui a réussi à observer le Soleil pendant plusieurs années avec une couverture de 90%, en choisissant particulièrement bien les endroits, en particulier en évitant les endroits où il y a trop de nuages, parce que c'est pas très, ça diminue beaucoup la capacité de couverture continue. Alors, sur la Terre, on ne peut pas faire des mesures de variation d'éclat, parce que l'atmosphère terrestre est trop perturbée et ne permettrait pas d'atteindre la précision qu'on recherche. En revanche, on peut, dans le cas du Soleil, parce qu'il est très brillant, faire des mesures de vitesse radiale par spectroscopie en utilisant l'effet Doppler, et c'est ce que fait le réseau Gong. Mais c'est une source d'information partielle. Et alors, on a aussi, dans le cas du Soleil, lancé, il y a un gros satellite qui a été lancé donc par l'ESA, la NASA, qui s'appelle SOHO, qui est toujours en opération, qui vient de... dont la durée a été rallongée de 5 ans récemment, donc qui devrait encore vivre 5 ans et qui a déjà quasiment 10 ans d'âge, qui est installé... alors là, j'ai un petit dessin qui représente l'orbite, mais enfin, c'est pas très intéressant. Le SOHO se trouve entre la Terre et le Soleil. Le Soleil est dans cette direction. Et ce SOHO regarde toujours le Soleil. Il se trouve en permanence dans la direction Soleil-Terre, à ce qu'on appelle le point de Lagrange L2. Et du coup, il peut observer le Soleil absolument continuellement. Voilà l'allure du satellite SOHO. Et pour avoir une idée des échelles, le voici dans un hall d'intégration avec deux personnes qui vous donnent l'idée de la taille. Ça, c'est un gros satellite sur lequel il y a 11 expériences différentes. Et ce satellite a énormément contribué aux données de sismologie qui ont permis d'obtenir cette connaissance du Soleil telle que je vous la décrivais il y a deux secondes. Alors, donc, ce que nous souhaitons faire maintenant, nous les gens qui cherchons à comprendre l'intérieur des étoiles, évidemment, c'est de se dire que c'est très bien de connaître le Soleil, mais c'est très insuffisant. Donc, il faut poursuivre cet effort et essayer de détecter les oscillations dans d'autres étoiles. Évidemment, c'est toujours pour confirmer une théorie physique, il faut avoir beaucoup d'expériences différentes. Une seule expérience ne suffit pas. Alors, pourquoi c'est très difficile d'observer les oscillations dans d'autres étoiles? Ben, je vous ai déjà dit, dans le Soleil, ce n'est pas facile. C'est des oscillations qui sont de l'ordre de 1 millionième. Dans les étoiles, c'est encore beaucoup plus difficile parce que le signal est plus faible. Et puis qu'au lieu de voir une surface complète et pouvoir faire des images, les étoiles dans le ciel, même si elles sont brillantes, ne sont que des points lumineux. Donc, ceci veut dire en particulier qu'on ne pourra jamais voir sur les étoiles des structures vibratoires qui vont avoir des formes très compliquées. parce qu'on n'a pas le moyen de distinguer sur la surface de l'étoile des zones différentes. Donc c'est beaucoup plus difficile. Alors là, il est très très clair que pour les étoiles, il est tout à fait nécessaire d'aller dans l'espace, parce qu'on ne peut pas faire ces mesures de vitesse comme je vous les ai montrées là sur le Soleil, dans le cas du Soleil, parce que les étoiles sont trop faibles. Alors, pour illustrer le fait de pourquoi il faut aller dans l'espace, j'ai représenté ici des mesures qui ont été faites par un réseau multisite sur des étoiles entre trois points sur la Terre, aux Canaries, en Chine et au Mexique, ce qui permet en principe d'avoir une bonne continuité des observations, puisque quand une étoile se couche aux Canaries, elle se lève au Mexique, et quand elle se couche au Mexique, elle se lève en Chine. Donc on peut l'observer quasiment continuellement. Malheureusement, ce qu'on fait en général est très partiel. On voit ici sur cette courbe que quand vous voyez les choses qui oscillent, il s'agit évidemment d'observation. Quand il y a un trait blanc, un trait droit, c'est qu'il n'y a pas d'observation. Vous voyez qu'ici, on a des interruptions jour-nuit, on a de temps en temps du mauvais temps, ici très peu d'observation. Et puis, on ne peut pas observer très longtemps parce que la Terre tourne autour du Soleil et les étoiles ne peuvent pas être observées de jour. On ne peut les observer que de nuit. Donc, on ne peut observer que très peu de temps. De temps en temps, en revanche, vous voyez l'aspect du réseau multisite. Je vous disais, les étoiles se lèvent successivement sur les différents instruments installés autour du globe et représentés ici. On voit qu'on a suivi une étoile pendant très longtemps. Alors ça, évidemment, c'est un exemple pour vous montrer ce qu'on peut faire. C'est un exemple sur une étoile qui est variable avec une très, très grande amplitude puisqu'on la voit du sol. Ça n'est pas les étoiles sur lesquelles nous chercherons à faire de la sismologie. Et donc, comme dernier point, comme on cherche des variations d'éclat qui sont 1000 à 10 000 fois, même parfois 100 000 fois plus faibles que celles que l'on pourrait détecter du sol, il est absolument nécessaire d'aller dans l'espace. Voilà. Donc, un des moteurs principaux de ce projet CORO a été donc d'essayer de faire de la sismologie des étoiles. Le deuxième sujet scientifique, je vous l'ai déjà dit, donc, c'est la détection des planètes. Alors en fait, c'est un sujet qui est entré dans l'histoire de ce satellite un peu tardivement, mais parce qu'il n'y a que peu de temps qu'on a vraiment commencé à observer des planètes en dehors du système solaire, et que la communauté scientifique s'est mise à penser qu'il s'agissait d'un sujet très important sur lequel il fallait faire des efforts. Donc, pourquoi... Ah, c'est parti tout seul. Donc, pourquoi associer un programme de détection de planètes à un programme de sismologie? Eh bien, parce que, donc, pour détecter des planètes, il y a plusieurs méthodes. C'est toujours très difficile aussi. Et en fait, une planète qui passe devant le disque de son étoile parente, de l'étoile autour de laquelle elle tourne, va produire une sorte d'éclipse, que nous avons plutôt tendance à appeler un transit. Et au moment du passage, si nous sommes dans la bonne direction pour l'observer, évidemment, il faut être dans la bonne direction, l'éclat de l'étoile va diminuer. Donc, mesurer cette diminution d'éclat, c'est à peu près faire une mesure qui est équivalente à chercher les variations d'éclat dues à des oscillations. Donc, pour illustrer ceci, ça c'est un transit qui a été observé depuis le sol parce qu'il est c'est une grosse planète qui passe devant l'étoile. Et on a pu l'observer aussi... Oh, vous n'y voyez rien peut-être, si. On a pu observer aussi avec le télescope spatial, et vous voyez ici, en comparant cette courbe et celle-ci, la différence de qualité, la différence de précision entre les observations faites depuis l'espace et les observations faites depuis le sol. Ce qui vous montre que si, par exemple, on cherchait des variations très faibles, 10 fois ou 100 fois plus faibles que celles-ci, eh bien, on ne pourrait pas les observer depuis le sol. Donc, Pour détecter ces transits, ou ces éclipses, si vous préférez, il faut aussi observer longtemps et continuellement. Et il faut aussi observer avec une très grande précision. Quand la Terre passe devant le Soleil, si nous étions un observateur à très grande distance, à l'infini, situé dans la direction de la Terre, Terre-Soleil, nous verrions une variation d'éclat de 1/10 millième. Lorsque Jupiter, en revanche, passe devant le Soleil, la variation d'éclat n'est que de 1/100, parce que le rayon de Jupiter est à peu près le 1/10 du rayon du Soleil. Alors, si on veut chercher des petites planètes, donc il faut des très grandes précisions. Mais, comme je le disais tout à l'heure, pour observer ces éclipses, ces transits, il faut se trouver dans une direction particulière. Il faut que l'observateur se trouve dans la direction de la planète, enfin, qui joint, sur la droite, qui joint l'étoile à la planète. En général, ce ne sera pas le cas. Donc, et on ne le sait pas à l'avance, évidemment. Donc, la seule solution, c'est d'observer un très grand nombre d'objets en se disant que si tous les objets ont une planète, eh bien, il devrait y avoir à peu près 3% des planètes qui passent devant, pour nous, pour un observateur très éloigné, à peu près 3% des planètes qui passent devant devant l'étoile, pour l'observateur. Donc, observer en plus un très grand nombre d'objets. Alors, quelle est la situation sur le plan des planètes que nous connaissons, des planètes extrasolaires, c'est-à-dire les planètes en dehors du système solaire que nous connaissons? Eh bien, pour le moment, parce que c'est très difficile à détecter, je vous donnais des chiffres tout à l'heure, on a essentiellement trouvé des planètes dites géantes, c'est-à-dire des planètes qui ont à peu près la taille de Jupiter et qui sont très près de leur étoile parente. Alors que vous savez sans doute que dans notre système solaire, les planètes qui sont tout près du Soleil, on va y revenir, sont toutes petites. Et en revanche, il y a deux grosses planètes, Jupiter et Saturne, qui sont très loin. Donc, en fait, ce qu'on a découvert d'abord, ce sont des planètes autour d'autres étoiles qui sont très, très différentes des planètes que nous connaissons dans notre système solaire. Et là, ce petit graphique montre... Alors, il n'est pas à jour, il est impossible de montrer un graphique à jour sur la détection des planètes parce qu'on en découvre en ce moment pas une par jour, mais au moins une par mois. Et il vous montre là... Ça, c'est ce graphique donne la distance à l'étoile parente. La Terre serait ici à 1. Et là, en ordonnée, en fait, c'est essentiellement les masses. Et la masse de Jupiter est... ici. Donc en fait, c'était simplement pour vous donner le sentiment que toutes les planètes qu'on connaît sont très... La plupart des planètes extrasolaires qu'on a découvertes sont très très près de leur étoile parente. Mais évidemment, on sent bien qu'on commence à détecter des planètes, mais dans notre système solaire, il y a des petites planètes, donc comment détecter des plus petites planètes? Ça, c'est encore une autre façon d'illustrer la différence entre les systèmes planétaires qui ont été observés et notre système solaire. Évidemment, ce n'est pas tout à fait à l'échelle. Ça, c'est donc l'étoile parente. Ce n'est même pas du tout à l'échelle. Et puis, ce sont les planètes intérieures, enfin, les petites planètes de notre système, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et puis, Jupiter est dans la pièce à côté. Ou presque, non pas tout à fait, mais enfin Jupiter serait par ici, je pense. Et les systèmes bien connus actuellement, vous voyez, ont celui-là une planète qui est assez loin, mais qui est beaucoup plus grosse que Jupiter. En revanche, la première planète découverte à l'Observatoire de Haute-Provence, d'ailleurs, avait été un petit Jupiter, mais très très près de son étoile. Et vous voyez les deux autres. On a aussi découvert... au moins un système planétaire, c'est-à-dire on connaît un système pour lequel on sait qu'il y a plusieurs planètes autour de la même étoile. C'est le système de l'étoile Upsilon d'Andromède, mais dans lequel on a découvert aussi trois planètes qui sont en fait des grosses planètes et qui ne ressemblent pas du tout à notre système solaire qui a été à nouveau reproduit ici. Alors, cette découverte, évidemment, a énormément intrigué parce que depuis fort longtemps, Laplace et même avant, on a cherché à faire des théories de formation des systèmes planétaires qui expliquaient le système solaire, puisqu'on ne connaissait que le système solaire. Et immédiatement, ces théories de formation des systèmes planétaires se sont écroulées parce qu'elles n'expliquaient pas ce phénomène nouveau qui est la présence de planètes grosses tout près de leur étoile. Alors ça, je pense que c'est un petit peu technique, mais c'est simplement pour illustrer le fait que on connaît très très mal, on ne connaît même pas du tout actuellement, on ne sait pas décrire les phénomènes qui font passer d'un nuage protoplanétaire, je dirais, autour d'une étoile, et à un vrai système planétaire entièrement constitué. Alors, initialement, on avait plutôt cherché des scénarios qui fabriquaient des petites planètes, des petits planétoïdes solides, et qui ensuite fabriquaient des planètes géantes en capturant du gaz sur des noyaux solides, comme le noyau de la Terre, par exemple. Et probablement, ce scénario fonctionne très mal. En tout cas, il impliquerait, pour trouver les Jupiters, d'introduire de nouveaux phénomènes. Actuellement, voilà la situation. On a un espèce de système où on pourra avoir des Jupiters très loin, des Jupiters, ce qu'on appelle des Jupiters chauds, ça c'est tous ceux qu'on vient de découvrir, donc des grosses planètes qui sont très près de l'étoile, des petites planètes telluriques, et puis peut-être même un halo de planètes tout autour. Et pour expliquer cela, de nombreux efforts sont faits actuellement. Et il y a quelques idées complètement nouvelles qui consisteraient à fabriquer des grosses planètes, des très très grosses planètes, à partir du premier nuage, tout de suite, et ensuite à faire évoluer ce système de très grosses planètes pour arriver à un système de ce genre. Ce n'est pas encore terminé, il y a plusieurs branchements possibles, et surtout, aucune de ces théories actuellement n'explique l'ensemble des phénomènes observés. Donc, elles sont évidemment améliorées à revoir. Et ce qui manque terriblement pour avancer dans cette affaire, c'est de savoir si, oui ou non, il existe des planètes telluriques en dehors du système solaire. Puisque maintenant, on sait qu'il existe des Jupiters plutôt chauds ailleurs, on ne sait pas s'il existe des planètes telluriques. Clairement, pour reprendre toujours la même chose, les planètes que l'on observe, c'est ça. Les planètes qu'on va essayer de trouver, c'est plutôt ces petites planètes-là. Genre, évidemment, des Uranus, Neptune, ça, ce sera assez facile parce qu'ils sont moyennement gros, mais des toutes petites planètes comme la Terre, Mars, seront difficiles à voir. Et les méthodes actuelles par lesquelles on détecte les planètes, qui sont des méthodes de spectroscopie, une fois encore, c'est-à-dire on mesure les variations de vitesse radiale de l'étoile. Ça, c'est la première découverte. Je vous ai donné cette courbe qui représente la variation de vitesse radiale de l'étoile due au mouvement de son compagnon, avec les précisions les meilleures qu'on puisse obtenir actuellement. Elles ne sont capables que d'atteindre, de détecter des objets qui pourraient peut-être maintenant aller jusqu'à 0,2 ou 0,3 masse de Jupiter, mais sûrement pas mieux. Donc, il faut une autre méthode, et c'est pour ça que nous avons proposé d'utiliser la méthode des transits telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure. Bon, donc voilà essentiellement les deux programmes scientifiques autour duxquels est construit l'instrument CORO. Et donc, comme vous l'avez compris, ces deux programmes demandent les mêmes caractéristiques d'une instrumentation. Il demande qu'on soit capable d'observer pendant très longtemps, avec très peu d'interruptions, parce que si vous avez trop d'interruptions, vous risquez d'avoir des interruptions quand il y a le transit, ou vous comprendrez mal la fréquence. Donc il faut très peu d'interruptions, ça c'est très très difficile. Vous savez, sur la Terre, les étoiles, on les observe 2 mois par an et la nuit, et quand il fait beau. Et ensuite, donc, il faut obtenir une très très grande précision, et ce qui est assez frappant, c'est que, en fait, la précision demandée sur cette mesure d'éclat, elle va être à peu près équivalente lorsqu'on veut détecter une planète tellurique autour d'une étoile assez faible, pour les spécialistes, le magnitude 15, ou bien si on veut détecter des oscillations analogues à celles qu'on a trouvées sur le Soleil, sur des étoiles assez brillantes, relativement nombreuses dans le, suffisamment nombreuses dans le ciel. Et pour cela, il faut un télescope qui a à peu près 600 cm² de surface, avec une très grande efficacité. Il faut aussi, plus pour le programme Planète que pour le programme Sismologie, il faut un grand champ de vue, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut observer un grand nombre d'objets. Donc, là, il a été montré que pour ce programme Corot, pour lesquels les cibles, les étoiles auxquelles on va chercher des exoplanètes sont des étoiles assez faibles, pour les gens qui savent ce que c'est, magnitude 15, il faudra un champ de vue d'au moins 4 degrés carrés. Et ceci permettra aussi d'observer simultanément donc, plusieurs étoiles brillantes, mais pas en grand nombre, une petite dizaine, pour faire de la sismologie. Donc voilà, défini un peu les caractéristiques d'un instrument qui peut réaliser ces deux programmes. Et c'est autour de ça que nous avons essayé de construire le projet Corot. C'est une entreprise longue et difficile, mais comme tous les projets spatiaux, je crois. Et enfin, peut-être dans ce cas-là, c'était peut-être un peu plus difficile que d'autres projets parce que c'était une thématique très nouvelle. On a beaucoup jusque-là utilisé l'espace pour surtout observer des rayonnements qui sont arrêtés par l'atmosphère terrestre et qu'on ne peut pas voir sur Terre. Hein. On a commencé l'espace avec le rayonnement ultraviolet, le rayonnement infrarouge, les rayons X, les rayons de très haute énergie, les rayons gamma, le radio submillimétrique aussi, enfin toutes ces longueurs d'onde qui ne sont pas accessibles sur la Terre. Là, on fait de l'espace, mais dans des longueurs d'onde qui sont accessibles sur la Terre. Et ce qu'on demande à l'espace, c'est la très grande stabilité et la continuité. Donc ça a été très difficile de faire comprendre qu'on pouvait utiliser de l'argent de la recherche spatiale pour faire des choses comme ça. Et donc on a commencé dans les années 80 à essayer de promouvoir ce genre d'idées. On a fait beaucoup de propositions. Le premier instrument qui a été construit devait voler sur la grande sonde russe Mars 96 qui devait aller visiter Mars, qui a fait un demi-tour de Terre et qui est tombé en Colombie. Donc nous sommes remis à l'ouvrage et nous avons proposé dans le cadre du programme mini-satellite du CNES. Donc, une expérience que nous avons tout de suite appelée Corot et qui, au début, n'était dédiée qu'à la sismologie, mais qui, ensuite, s'est enrichie du programme Planète et qui, dans ce cadre-là, a été proposée. Donc, je crois qu'en 1993, il n'y avait pas encore les planètes. L'expérience avait été présélectionnée. En 1995, donc, on a découvert la première planète, 51 Pégase, et donc on a tout de suite pensé qu'on pourrait essayer d'associer ce programme scientifique et très excitant. Et en fait, l'expérience a été décidée en 2000 pour un lancement, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, courant 2005. Donc, ça ne fera jamais que 25 ans. Donc, le cadre programmatique, après avoir essayé et fait beaucoup de propositions dans toutes sortes de cadres, le cadre programmatique pour lequel nous avons eu du succès, donc, c'est le cadre des petites missions CNES. Le CNES a lancé dans les années 1992-93 un programme de développement d'une filière de petites missions qui était un petit peu calquée sur la politique américaine de l'époque qui s'appelait « Smaller, cheaper, better », « plus petit, plus beau, plus moins cher et plus rapide ». Bon, peut-être un peu, c'est pas sûr. Il fallait être pas cher, donc ça c'est une très très grosse contrainte. Le coût total de cette opération pour le CNES actuellement est encore très bas pour une expérience spatiale. Il correspond à peu près à 60 mégaeuros, ce qui est une grosse somme, mais qui, pour une expérience spatiale, est une toute petite somme. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire une expérience spatiale? Il faut un lanceur. Il faut évidemment un satellite. Enfin, disons, un satellite, ça tourne autour de la Terre. Une sonde spatiale, si ça tourne autour de la Terre, mais là, il s'agira d'un satellite. Il faut une antenne de réception. Et il faut beaucoup de matière grise. derrière des ordinateurs. Donc la mission, comme je vous l'ai dit, on l'a dit au début déjà, c'est une initiative du CNES, le CNES y est maître d'œuvre, mais il y a beaucoup de coopérants européens qui nous ont apporté à la fois, je dirais, une caution scientifique montrant que le sujet était vraiment, que le sujet était vraiment un sujet important pour l'ensemble de la communauté internationale et qui ont aussi apporté leur savoir-faire et un petit peu d'argent, évidemment. On y viendra tout à l'heure. Ah ben les voilà, les coopérants. Donc, la France maître d'œuvre, trois laboratoires qui ont joué un rôle important, le laboratoire d'astronomie spatiale de Marseille, qui est responsable du télescope, on va y venir, l'observatoire de Paris, où vraiment l'essentiel du management scientifique et une grande partie de l'instrument sont faits, l'Institut d'astrophysique spatiale, qui va essentiellement contribuer dans les phases de construction, de mesure de l'instrument, de vérification de ses propriétés, et puis quelques laboratoires en France qui participent. Et voici la liste des collaborations internationales que je ne vais pas vous décrire en détail. Elles sont toutes européennes, sauf peut-être le Brésil, que nous associerons, parce que la situation géographique du Brésil permet d'avoir une antenne à une distance importante de l'antenne qui sera sans doute installée à Toulouse et permettra d'augmenter la quantité d'informations que nous pourrons récupérer. Et donc, les points rouges sur la carte d'Europe, c'est tous les endroits où il y a des gens qui travaillent sur le projet Coro actuellement. Nous avons malheureusement aujourd'hui des mauvaises nouvelles de l'Italie qui dit qu'ils n'ont pas d'argent, donc je ne sais pas ce que les Italiens vont devenir. Alors, ce satellite, vous avez ici une petite maquette. Malheureusement, je n'ai pas pu vous amener la grande maquette. Celle-là, elle est au 30e. Une petite maquette de ce satellite. Donc, il est dessiné là simplement. Donc, un télescope avec un très grand baffle, on va en parler. Au pied du télescope, une caméra, un module de service dans lequel se trouvent tous les équipements. Évidemment, comme tous les satellites, il y a un endroit où se trouvent toutes les fonctions de survie du satellite, de contrôle, de pointage, et puis les panneaux solaires qui fournissent l'énergie. Et là, ce sont ce qu'on appelle des senseurs stellaires qui guident et qui déterminent la position du satellite, donc qui le pointent dans le ciel. Donc voilà, et donc le cube ici en bas qui supporte les panneaux solaires, l'antenne, ça c'est l'antenne qui communique avec la Terre, c'est la plateforme Proteus qui fait à peu près 1 mètre cube. Donc la hauteur totale de cette affaire, c'est 4 mètres à peu près. Donc c'est pas tout petit, mais c'est même assez important. Donc voilà un dessin un peu plus complet de l'instrument. Donc le télescope a un diamètre d'à peu près 37 cm. Le miroir principal se trouve quelque part ici. Il y a un miroir secondaire ici. Le télescope est à focale et, pour ceux qui connaissent, hors d'axe. Pourquoi hors d'axe? Pour qu'il n'y ait pas de pièces à l'intérieur du faisceau, parce que nous sommes très sensibles à tout ce qui est la lumière diffusée, des problèmes comme ça. Donc, on cherche à avoir un instrument extrêmement pur. Donc, on a surmonté de cet instrument un énorme baffle qui fait 1,50 m de haut et 80 cm de diamètre, qui est là pour, on va le voir tout à l'heure, protéger de la lumière diffusée de la Terre, parce que, vous verrez, nous sommes pauvres, donc nous sommes en orbite basse. Et ce baffle est tellement efficace, enfin, des baffles de cette efficacité n'ont encore jamais été réalisés. Il laissera passer un photon sur 10 milliards de milliards, c'est-à-dire que son efficacité, c'est 10⁻³, pour ceux qui voient ce que ça veut dire. Donc, l'information est recueillie par 4 détecteurs imageurs CCD, qui ont chacun 2000 par 2000 pixels, qui sont un petit peu spéciaux, mais pas tant que ça, excusez-moi, il y a une faute d'orthographe. Et il y en aura 2 dédiés à chaque programme. La masse totale de cet instrument, à peu près 220 kg. La masse totale du satellite avoisine les 500 kg. Alors, où va être placé ce satellite? Eh bien, là, comme je vous disais tout à l'heure, la filière mini-satellite, ce n'est pas très cher. Donc, comme ce n'est pas très cher, on ne peut pas aller très loin. Donc, on ne peut rester que l'environnement terrestre relativement proche. C'est ce qu'on appelle les orbites basses. Ensuite, le programme scientifique, vous l'avez vu, nous demande de longues durées d'observation continues sur un même champ d'étoiles. Évidemment, ce n'est pas une situation idéale. Vous avez vu, je vous ai montré que le satellite SOHO, lui, pour observer le Soleil continuellement, était allé se placer assez loin de la Terre, entre la Terre et le Soleil. Malheureusement, nous, on ne pourra pas dépasser 900 km au-dessus de la Terre, donc on va être très gêné par tous les problèmes de l'orbite terrestre. On va les voir. Mais pour pouvoir observer continuellement sur un même champ d'étoiles, eh bien, il faut observer. Donc, il faut observer sur une orbite, il faut placer le satellite sur une orbite qui passe par les pôles de la Terre, parce que une fois que le satellite est placé sur cette orbite est fixe par rapport au champ d'étoiles, elle est inertielle. Donc, si on a une orbite qui passe par les pôles, on va pouvoir regarder, si on regarde à peu près perpendiculairement au plan de l'orbite, on va regarder toujours dans la même direction. Et c'est la Terre qui va tourner dessous, et c'est aussi la Terre qui va tourner autour du Soleil. Ça devrait être capable de venir. Donc voilà comment le principe de cette mission, c'est d'observer en gros à l'opposé du Soleil, dans une direction perpendiculaire, toujours au même plan, qui est le plan de l'orbite, et qui va passer par les pôles. Donc à chaque orbite, le satellite passe par le pôle Nord et par le pôle Sud. Voilà. Et comme ça, eh bien évidemment, on peut observer tant qu'on a le Soleil dans le dos. Mais comme la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, au bout de à peu près 180 jours, on n'a plus le Soleil dans le dos. On a le Soleil dans l'œil, si j'ose dire. Donc, c'est une situation totalement inacceptable. Donc, vous allez le voir à travers une petite animation. Ben, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On retourne le satellite et on regarde dans l'autre direction. Donc, ce qui veut dire qu'on ne pourra observer que jusque à peu près pas plus de 180 jours. C'est dommage pour le programme Planète. C'est très dommage, mais des missions successives plus ambitieuses feront mieux. Pourquoi ça ne veut pas bouger? Ah, voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer une petite animation qui vous explique un petit peu tout ça. Donc, voilà le satellite sur son orbite. Alors, évidemment, ce n'est pas à l'échelle, hein. Vous voyez le Soleil, le satellite autour de la Terre, qui va observer la galaxie, hein, on a tout imaginé. Donc il observe dans cette direction, à peu près, voilà. Bon, alors maintenant vous allez voir l'intérieur du satellite, suivre les photons. Donc vous voyez, ça va trop vite, bon. Excusez-moi, parce que c'est une animation qui a été faite pour autre chose, ça je l'ai déjà un petit peu raconté, mais bon, voilà une représentation de ce que c'est que le programme de sismologie, voir les ondes, ensuite le programme de recherche d'exoplanètes, voir donc des transits. Et alors voilà, donc ce qui se passe, on tourne, la Terre tourne autour du Soleil. Évidemment, le satellite toujours observe dans la même direction, mais là, comme je vous le disais, donc, il va être obligé de tourner, parce que sinon il regardera le Soleil. Et il va observer la direction opposée. Plutôt, là, nous avons choisi cette direction pour des raisons scientifiques, dans la direction du centre de la galaxie. Et puis, il continue son petit bonhomme de chemin. Et il observe pendant 150 jours dans cette direction du centre de la galaxie. Et là, il va être obligé de faire une pause. Sinon, il avait une batterie qui recevait trop de soleil, donc il est obligé de tourner. Donc on change un peu de programme, on fait un programme plus court. Et puis là, il reçoit à nouveau le soleil dans la figure, donc il tourne à nouveau. Il ne va pas recommencer. Excusez-moi, je n'arrive pas à passer au truc suivant. Je n'arrive pas à l'arrêter. Quand je l'arrête, je n'arrive pas à... Bon, vous allez le revoir une fois. pour savoir si vous avez bien compris. Ça, non, c'est bon. J'espère que je vais. Après, vous ne le reverrez pas une troisième fois. Hein. C'est terrible la technique. Hein. Je croyais que j'avais tout contrôlé et puis. Si, si, passe là. Je suis en panne. Non, mais il ne va pas me le faire encore une fois. Mais il n'est pas. Mais si, je crois que c'est ce que je vais faire, c'est ce qui m'ennuyait, mais. C'est ce que je voulais éviter. J'arrive. Patientez. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Alors, donc en fait, vous avez compris que le satellite, donc le, notre mission, va observer deux directions, l'une près du centre de la galaxie, l'autre à l'opposé. Alors ça, c'est une projection dite de Mercator, du ciel, avec le plan galactique et les différentes constellations. Donc on va observer pas très loin de la constellation d'Orion, et puis pas très loin là, de la constellation du Cygne, un peu plus au sud. Et dans deux cercles qui font à peu près 12 degrés de diamètre, et qui sont à peu près sur l'équateur céleste, à l'intersection de l'équateur céleste avec le plan galactique. Donc vous avez vu un petit peu dans l'animation, qu'est-ce que nous allons observer? Donc nous avons, je vous ai dit, nous avons quatre détecteurs, qui sont des détecteurs carrés en fait, des matrices CCD. Deux seront dédiés aux étoiles brillantes du programme de sismologie. Si les étoiles sont grosses, c'est parce que pour améliorer la précision photométrique, on ne se place pas, on ne cherche pas à faire le point, au contraire, on cherche à se défocaliser, à faire des grosses patates. Et en revanche, donc, les deux autres détecteurs seront dédiés au programme de sismologie. Ils observeront un grand nombre d'étoiles faibles. En plus, ils les observeront même avec un petit dispositif supplémentaire qui permettra de faire un petit spectre. Là, malheureusement, il n'y a pas des couleurs, mais cette partie-là sera rouge et la queue sera bleue pour chaque étoile. Alors, évidemment, ça, c'est un champ de ciel réel, et ça, c'est une toute petite fraction donc, du détecteur dans lequel on observera tous ces objets, et même, je ne les ai pas tous mis. Donc, voilà notre programme. Pour faire ça, toutes les étoiles que nous allons observer, il faut les connaître le mieux possible par ailleurs. Donc, nous avons, en même temps que cette préparation et cette construction du satellite, un grand programme d'observation complémentaire au sol qui implique des télescopes un peu partout dans le monde pour faire à la fois des mesures de photométrie, de caractérisation de la température, de la composition chimique des objets et aussi quelques mesures de spectroscopie, en particulier pour détecter des étoiles qui pourraient être variables, qui pourraient être doubles, etc. Bon, j'ai mis quelques photos, il y a l'Observatoire de Haute-Provence, une station au Pico de la Veleta en Espagne qui fait un énorme travail de caractérisation grossière. Au Chili, à l'ESO, on fait aussi des observations essentiellement pour détecter les étoiles doubles et les parasites gênants. De même au télescope franco-canadien... à Hawaï. Donc tout ça est fait par donc. Oh ben non. Voilà. Donc les résultats attendus. Qu'est-ce que nous attendons finalement plus précisément de cette mission? Je vous ai donné les grandes idées. Donc nous allons observer dans le programme de sismologie, où est mon truc, à peu près une centaine d'étoiles brillantes. 50 seront observées pendant les longues périodes que je vous ai montrées tout à l'heure, 50 autres pendant les petites périodes. Nous espérons, grâce à ces 100 étoiles à peu près, couvrir un large éventail de masses, d'âge et de composition chimique qui nous permettra de bien contrôler l'ensemble des paramètres de l'évolution stellaire et ses conséquences sur l'âge de l'univers, l'évolution chimique de la galaxie, etc. Le programme de recherche, c'était un petit schéma qui montre que toutes les étoiles n'ont pas la même structure selon leur masse, selon leur état d'évolution. Le programme de recherche de planètes, lui, va observer à peu près 120 000 étoiles pendant 150 jours. Sur les 5 longues périodes, il fera à peu près 120 000 étoiles. Et on attend la détection de quelques dizaines de petites planètes comme la Terre, ou celle-là, hein, et plusieurs centaines de plus grosses planètes. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais il est évident qu'avec toutes ces données, on pourra se poser des questions scientifiques qui dépassent largement le cadre de ces deux programmes, qui sont les programmes prioritaires, mais qui permettront d'aborder d'autres questions. Alors, je vous ai dit, en commençant, cette expérience sera une première mondiale. Elle a quand même quelques concurrents, et je ne pouvais pas terminer cet exposé sans vous en parler. Il existe deux projets de microsatellites de sismologie. Le premier, qui a la taille d'une valise, c'est à peu près une Samsonite, s'appelle MOST, et c'est le premier satellite canadien. Alors, lui est quasiment terminé, et il devrait être lancé en 2003. Il devrait observer entre 5 et 10 étoiles, mais ce serait un très très grand progrès si cette affaire marche. Il y a aussi un projet de microsatellite danois, mais qui est beaucoup moins avancé et qui ne devrait pas nous concurrencer sérieusement. Ensuite, les projets sont à plus long terme. L'Agence spatiale européenne a inscrit à son programme, avec un point d'interrogation quand même, une espèce de super corot qui s'appelle Eddington, et qui aura les mêmes objectifs, la même méthode et les mêmes objectifs, mais c'est la deuxième génération, donc ce sera beaucoup plus d'étoiles, ce sera une plus grande précision, ce sera vraiment des terres, peut-être dans des régions dites habitables. C'est le successeur de Corot. À plus loin, et alors vraiment dédié à la recherche de planètes, il y a d'énormes efforts qui sont faits actuellement dans le monde, et un projet américain vient d'être décidé, qui s'appelle Kepler, et qui devrait être lancé vers 2007, qui lui aussi qui est vraiment un concurrent, au sens où il emploie la même méthode, mais comme il aura un télescope de 1 mètre au lieu de 27 cm, il va s'en aller très loin sur une orbite héliocentrique en suivant la Terre. Il pourra observer pendant très longtemps, plusieurs années, et un nombre d'étoiles beaucoup plus important. Donc lui devrait découvrir un grand nombre de terres et faire vraiment une statistique de l'ensemble des systèmes solaires, où se trouvent les planètes et comment sont faits les systèmes solaires. Et puis le grand projet quand même qui excite vraiment tout le monde, c'est qu'ensuite, quand on aura vraiment détecté une planète analogue à la Terre sur une étoile pas trop loin de nous, eh bien on voudra en faire une image, et essayer de voir quelle est la composition chimique et les de sa surface. Et ça, c'est un projet qui a été initié à la fois par les Américains et par la NASA, qui s'est appelé Darwin TPF et qui pourrait s'appeler peut-être encore autrement, je ne sais pas, qui est vraiment à l'échelle mondiale, mais qui probablement ne verra pas le jour avant les années 2015. Et qui devrait, là, vraiment être l'aboutissement de toutes ces recherches sur les planètes extrasolaires. Et bien, en ce qui me concerne, je crois que j'ai à peu près tenu mon temps, peut-être rempli mon contrat. Je vous remercie.
Merci Annie, merci beaucoup. Eh bien, maintenant on va passer aux questions, je vois déjà des mains qui se lèvent. N'oubliez pas que tout est enregistré, donc vous attendez que je vous passe le micro.
Alors, j'ai inscrit ici des adresses de sites, mais bon, vous pouvez prendre un moteur de recherche et faire Corot, vous trouverez le peintre, mais vous trouverez aussi la manip. Et donc nous avons un site avec un certain nombre de documents, en particulier des plaquettes que vous pouvez récupérer.
Bonsoir. Oui, si j'ai bien compris, l'axe optique donc de Corot est dans le plan de l'écliptique. Ce qui me surprend, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de choses dans ce plan, ne pensez-vous pas? Enfin, quelle est la probabilité d'être gêné par les objets qui sont dans le système solaire, dans ce plan de l'écliptique?
D'abord, alors, Corot n'est pas dans le plan de l'écliptique. Corot va observer dans le plan galactique, dans des régions qui sont à l'intersection du plan galactique et du plan équatorial. Donc, on n'est pas dans l'écliptique. L'écliptique est à une vingtaine de degrés de cette région. Mais il n'est pas impossible que, pas directement dans le champ de vue, mais à une certaine distance, de temps en temps, on voit la Lune. Alors, effectivement, l'étude a été faite. Et actuellement, je crois que le résultat, c'est que compte tenu de la direction de plan qui a été choisie, on devrait être gêné par la Lune en fin de mission pendant une dizaine de jours. Donc on ne craint pas grand-chose. Les autres objets du système solaire ne seront jamais dans le champ de vue et ne sont pas vraiment gênants parce que ce seraient des objets brillants qu'on évacuerait. On choisit, en fait, je n'ai pas eu le temps de vous expliquer ça, mais la stratégie d'observation, c'est qu'on ne fait pas des images. On sélectionne des régions du détecteur pour isoler des objets. Donc, si par exemple on avait une planète comme Mars dans un coin du détecteur, eh bien simplement on ne lirait pas le détecteur dans cette région. On mettrait un masque électronique, mais un masque quand même. Donc en fait, on n'est pas gêné par ça.
Oui.
Est-ce que l'on sait quelque chose de la structure du Soleil?
Bien, oui, je crois que maintenant, grâce à la sismologie, on connaît bien la structure interne du Soleil. On sait même expliquer, en gros, toute son histoire depuis la contraction du nuage dans lequel il a été formé. Et donc, on sait précisément quelle est la variation de température, la variation de densité à l'intérieur du Soleil, la quantité d'énergie produite à quelle profondeur. Ce qu'on sait moins bien, c'est ce qu'on comprend moins bien, c'est tout ce qui concerne les processus hydrodynamiques. C'est d'ailleurs pour ça que Corot s'appelle convection et rotation. C'est l'idée d'essayer de vraiment comprendre quels sont les mouvements à grande échelle dans les étoiles. Des mouvements qui risquent de créer des mélanges, qui risquent de déplacer, en fait essentiellement ça, des mélanges, qui vont aussi modifier les lois de freinage et qui vont avoir une conséquence sur l'évolution. Mais sinon, le Soleil actuellement, il est assez âgé, il a 4,5 milliards d'années. Il a encore à peu près le même temps à vivre, mais il a l'essentiel de son histoire derrière lui et il a perdu la mémoire. Donc, en fait, on n'a pas d'informations sur les étoiles jeunes, par exemple, en regardant le Soleil actuellement, parce que ce qui s'est passé dans les phases de sa jeunesse n'a pas laissé de traces dans sa structure. Mais oui, on sait que la température centrale du Soleil, c'est 15 milliards de degrés. On sait même maintenant, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais on sait même maintenant que ce qu'on a compris sur le Soleil grâce à la sismologie montre que les neutrinos qu'on observe en venant du Soleil, que le flux de neutrinos qu'on observe en venant du Soleil implique qu'il faut changer la physique du neutrino, parce que ce flux n'est pas celui que nous prédisons, mais celui que nous prédisons est suffisamment précis maintenant grâce aux mesures de sismologie pour que nous en soyons suffisamment certains et que nous soyons capables de dire maintenant aux physiciens dont c'est le métier, regardez ce qui se passe dans le neutrino, les propriétés du neutrino sont à revoir.
Tu parles des oscillations de neutrinos, des
changements. Oui, le fait que le neutrino a une masse forcément et que donc il existe dans plusieurs états et que cette interaction, on commence à savoir grâce au modèle solaire, on commence à cadrer un peu ces paramètres, mais il faut que les physiciens nous aident, quoi. Il faut nous travailler ensemble. Donc oui, on connaît très bien la structure du Soleil.
Moi, j'aurais une petite question, si la réponse n'est pas trop technique. Quels sont les mécanismes qui, justement, permettent à une étoile de vibrer comme ça? Qu'est-ce qui fait bouger un petit peu dans le Soleil?
Bien, dans le cas du Soleil et toutes les étoiles qui ressemblent au Soleil, donc il y a à la surface ce qu'on appelle une zone convective. Hein, c'est une région qui est instable dynamiquement, c'est-à-dire qu'elle est chauffée par le haut, par le fond, tellement que la matière n'est plus capable de transmettre l'énergie simplement par rayonnement. C'est exactement ce qui se passe quand de l'eau bout dans une casserole, vous chauffez tellement fort que simplement le rayonnement ne peut plus transporter l'énergie. Donc l'énergie est transportée par des mouvements. Ça se produit dans les 200 000 km qui sont à peu près en dessous de la surface du Soleil. Et donc ces mouvements turbulents, très énergétiques, enfin on pense que ce sont ces mouvements turbulents très énergétiques qui excitent les oscillations. Comme quand vous tapez sur un tambour, il faut quelque chose pour exciter ces oscillations. Dans le cas du Soleil, c'est ça. Il y a quelques étoiles pour lesquelles, mais dans des régions de température très particulières, où il y a un processus un peu d'auto-excitation. C'est-à-dire qu'il existe dans l'étoile un espèce de cycle de Carnot positif qui fait que quand une oscillation démarre, elle s'amplifie jusqu'à atteindre une amplitude limite, un cycle limite. Ça, c'est d'autres étoiles qui, d'ailleurs, en général, ont des amplitudes plus grandes et sont détectées ou observées du sol. Mais ce ne sont pas des étoiles sur lesquelles on peut faire beaucoup de sismologie parce que ce mécanisme ne fonctionne que pour un petit nombre de modes. Et si on n'a que deux ou trois fréquences, eh bien, on n'a que deux ou trois informations, donc ce n'est pas grand-chose. Tandis que quand c'est un mécanisme d'excitation stochastique, genre de celui de la convection, un grand nombre de modes sont présents, sont excités. Donc, à chaque fois qu'on a un mode, on a une information supplémentaire. Donc, on connaît bien, c'est pour ça le Soleil, plusieurs millions.
Merci. Bonsoir. Question extrêmement simple. Bon, coraux et supercoraux sont destinés à mesurer des périodes d'oscillation relativement courtes, si j'ai bien compris. Mais il existe d'autres oscillations à longue durée, telles que le cycle de 2 fois 11 ans. Est-ce qu'un supercoraux serait susceptible de détecter cela dans d'autres étoiles ?
Oui, ben on espère même qu'on fera des choses sur les cycles longs avec coraux, d'autant que ces cycles longs ont des durées variables selon les étoiles. Donc il y aura des étoiles pour lesquelles les cycles d'activité seront plus courts. Et évidemment, je n'en ai pas parlé, mais ce sujet des cycles d'activité magnétique, en fait, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, des étoiles, qui sont à long terme, est un des sujets qui sera abordé. Alors, peu par coraux, comme vous l'avez fait remarquer, parce que 150 jours, c'est pas mal, mais c'est pas assez, mais très évidemment par Eddington. Si Eddington vole, Eddington devrait avoir des durées d'observation de 3 ans. Et là, très clairement, le sujet de l'activité va être largement abordé. Mais il le sera déjà avec coraux. Et d'ailleurs, il est intéressant ce sujet de l'activité parce que c'est un sujet fort important pour la structure des étoiles, très peu connu parce que le magnétisme, c'est très compliqué. En même temps, c'est un perturbateur, c'est une source de bruit pour la mesure. Donc à la fois pour la mesure de sismologie et pour la détection des transits, l'activité est un ennui, si j'ose dire. Donc en ce moment, nous travaillons beaucoup justement avec des gens qui essaient de faire des modèles de cette activité magnétique pour essayer de voir quelles sont les meilleures méthodes à employer pour détecter quand même des transits ou des vibrations dans une étoile qui a de l'activité, donc des variations erratiques et à longue période. Oui, tout à fait, c'est un point très important.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le procédé qui va permettre d'obtenir des éléments du spectre de ces étoiles de très faible magnitude dont vous avez parlé sur une toute petite partie du champ ?
Ah, alors, en fait, ce qui se passe, très simplement, c'est que c'est un spectre à très basse résolution, R égale 4. En fait, c'est à peine un spectre et c'est surtout pas pour faire de la spectroscopie. Pourquoi nous faisons cet étalement de la lumière ? C'est-à-dire nous cherchons à séparer les couleurs, en fait. C'est justement à cause de ce problème d'activité. Et puis parce que, si nous observons un transit, une éclipse, en fait, les différentes parties du spectre vont être atténuées de la même façon. On dit donc que le transit est un phénomène achromatique. En revanche, on sait que l'activité stellaire est un phénomène chromatique. Ces amplitudes sont plus grandes dans le bleu que dans le rouge. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est séparer le bleu du rouge et comparer le signal en bleu et le signal en rouge pour essayer d'améliorer la détection des transits et surtout de diminuer les taux de fausses alarmes. Donc en fait, le dispositif, il est très simple, c'est un petit biprisme qui est placé tout près des détecteurs, uniquement sur le champ exoplanète, dans le, ce qu'on appelle le bloc focal qui contient tous les détecteurs et qui produit cette dispersion. Ce n'est pas idéal du tout, mais c'est ce que nous avons trouvé de mieux dans le cadre de cette expérience quand même à coût réduit pour faire cela. Mais c'est pas du... les opticiens disent que c'est un montage optique et pas génial.
Oui, là j'ai une question.
Bon, puisqu'on y est, on y reste. Est-ce qu'il y a moyen de se servir de l'atmosphère terrestre pour avoir d'autres informations?
Se servir, j'ai pas compris.
Est-ce qu'il y a moyen de se servir de l'atmosphère terrestre pour avoir d'autres informations?
C'est-à-dire que l'atmosphère terrestre, elle nous apporte plutôt des ennuis que des avantages. D'abord, elle absorbe le rayonnement, donc l'intensité du phénomène qu'on observe est plus faible. Et d'autre part, elle le perturbe à cause des inhomogénéités de l'atmosphère terrestre, de la turbulence en haute altitude, des courants de haute altitude qui font que il y a des variations qui sont du même ordre, nettement plus grandes même que celles que nous recherchons et qui sont en fait strictement dues à l'atmosphère terrestre, à l'inhomogénéité de l'atmosphère terrestre. Donc on peut pas, je ne crois pas qu'on puisse en tirer grand-chose.
Est-ce que vous avez des étoiles de première grandeur ou similaires, ou plus proches que ça, dans votre champ de visée? Et pourquoi éventuellement ne les avez pas sélectionnés? Pourquoi ne les avez-vous pas sélectionnés?
Eh bien, alors pourquoi on ne les a pas sélectionnés? Alors, parce qu'elles sont trop brillantes. C'est un paradoxe. Elles satureraient le détecteur. Donc, pour observer des étoiles très brillantes, il faut, pour faire de la photométrie, il ne faut surtout pas saturer les détecteurs. Parce que, bon, enfin, on essaie de voir comment on pourrait faire, mais ce n'est pas. Ce n'est pas la bonne méthode. Donc, en fait, à chaque magnitude d'objet, enfin, à chaque éclat, correspond un diamètre de télescope idéal. Il faut qu'il soit suffisamment grand pour qu'on collecte suffisamment de photons et pas trop grand pour qu'on ne sature pas. Alors, évidemment, on peut se débarrasser de ce problème de la saturation en faisant ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire en étalant les tâches. Mais on ne peut pas les étaler indéfiniment. Donc, en fait, si on veut avoir suffisamment d'étoiles, et nous, vous avez compris qu'on avait, à cause de cette orbite, on avait des problèmes de direction de visée, on ne peut pas viser n'importe où. Donc, il fallait qu'on trouve une collection, enfin, un ensemble de cibles qui correspondent bien à nos critères scientifiques. Et pour cela, il fallait aller à peu près vers la magnitude 6. Alors, le petit microsatellite dont je vous ai parlé, MOS, qui est beaucoup plus petit, lui, il va observer des étoiles brillantes, très brillantes, deuxième, troisième, mais pas zéro. Hein. Zéro, c'est trop. Zéro, c'est, il faut regarder ça avec 4 cm.
Dans le même ordre d'idée, est-ce que vous vous débarrassez des étoiles appelées communément variables, ou est-ce que ça fait partie de votre programme d'observation? Parce que les oscillations des étoiles variables peuvent tomber dans des périodes que vous recherchez?
Ben alors, des étoiles variables, il y en a de beaucoup de sortes. Non, on ne peut pas dire qu'on les exclut forcément. Ce qu'on a souhaité faire, c'est concentrer le programme scientifique sur des étoiles qui ressemblent au Soleil ou qui sont un peu plus massives. Parce que c'est dans ces... Pour des raisons assez simples, c'est qu'on se dit qu'il faut progresser pas à pas, qu'on a fait le Soleil, que le Soleil, c'est une des étoiles les plus simples qu'on puisse trouver. Il n'y a pas beaucoup de plus simples, on a de la chance, on la connaît bien maintenant. Donc on va essayer d'augmenter un petit peu la complexité. Et en particulier, on a centré notre programme scientifique sur le rôle des étoiles dans l'évolution de l'univers à travers ce que j'ai essayé d'expliquer au début, c'est-à-dire le rôle de la transformation des réactions nucléaires dans les cœurs des étoiles. Donc on s'est un peu concentré sur des étoiles sur lesquelles on pourrait avoir de l'information sur les cœurs. Et en particulier sur les cœurs qui sont dans lesquels il y a des phénomènes hydrodynamiques. Et ça, c'est des étoiles un peu plus chaudes que le Soleil, mais pas trop évoluées. Et ces étoiles-là ne sont pas dites variables au sens de la variabilité à grande amplitude que l'on voit depuis le sol. Donc elles sont un peu exclues, mais pas parce qu'elles sont variables, mais parce qu'elles ne sont pas des cibles privilégiées pour appliquer la technique de la sismologie. Et alors, en plus, il y a une autre chose, c'est que on sait très bien faire la sismologie du Soleil, parce que le Soleil, c'est très, très, très simple, et que le spectre des oscillations du Soleil, c'est un peigne, c'est magnifique, on reconnaît tous les modes, on fait tout ce qu'on veut sur le Soleil, c'est parfait. Pour des étoiles qui ont une structure plus compliquée, les oscillations sont beaucoup plus compliquées, et c'est beaucoup plus difficile d'interpréter. Donc, on n'a pas voulu centrer le programme scientifique sur un problème qu'il faudra aborder par étapes, mais qu'on ne se sent pas capable d'aborder tout de suite. Donc, en particulier, toutes les étoiles assez brillantes, les géantes, les Mira, toutes ces choses-là, on en aura peut-être quelques-unes par hasard, mais ce n'est pas le centre du programme scientifique. Parce que c'est trop dur.
Oui. Là, on va faire donc de la sismologie stellaire, donc par des mesures de variation de luminosité. C'est une méthode qui est plus sensible, moins sensible, comparable, enfin, etc., avec des méthodes qui auraient pu être basées sur les effets de Doppler de lumière par rapport aux variations de la surface de l'étoile.
Oui, pour le Soleil, comme j'ai essayé de vous le suggérer, les deux méthodes sont employables facilement. Pour les étoiles, le problème est qu'on manque de photons, donc il faut employer des très grands télescopes. Et si on veut donc préserver ces qualités de séquences ininterrompues et très longues, il faut bâtir un réseau de télescopes au sol. Alors 3, c'est insuffisant, il en faut, comme ils ont fait pour le Soleil, au moins 6 ou 7. Dans des sites qui sont de très bonne qualité. Et il faut des télescopes pour aller jusqu'à la magnitude 5 ou 6, c'est-à-dire avoir un choix d'étoiles raisonnable, il faut des télescopes de 16 mètres. Disponibles 24 heures sur 20, enfin disponibles pendant des périodes extrêmement longues pour ce programme, et avec des chances de succès qui sont quand même beaucoup plus faibles. Donc c'est actuellement. Bon, il y a eu beaucoup d'évaluations là-dessus, parce que quand on cherche à défendre une manif spatiale, il faut d'abord démontrer qu'on ne peut pas le faire depuis le sol. Donc, on a beaucoup évalué ces choses-là. En fait, les coûts sont presque équivalents, et en même temps, les capacités de réalisation, on n'a pas les moyens de faire ça, par exemple. On n'a pas les moyens de gérer une batterie de 8 télescopes de 16 mètres en permanence sur tout le globe. Il suffit qu'il y ait une révolution, puis c'est fini. Tandis que le satellite, on a la capacité de maîtriser son développement et son exploitation.
On travaille sur plusieurs révolutions, là.
Oui, sur plusieurs révolutions. Super. Bon.
Mais quand même, à l'ESO, au VLT, par exemple, il y a quand même des projets de.
Il y a des projets. Alors, c'est sûr qu'en plus, sur ces affaires-là d'utilisation des vitesses radiales, d'amélioration de l'équipement et de la taille des télescopes, la détection des planètes extrasolaires par vitesse radiale, ça nous a beaucoup aidés. donc, c'est sûr qu'il y aura des choses. En plus, il faut dire qu'on a quand même détecté, pas vraiment avec une sensibilité très grande, les oscillations d'Alpha Centaure du sol en vitesse radiale. Donc on en fait un petit peu, mais Alpha Centaure, c'est une magnitude 0 ou 1, je ne sais pas, 0, je crois. Donc c'est plus difficile de faire un vaste programme. Donc je pense que le vaste programme, il est forcément spatial, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses au sol non plus. Il faut en faire et il faut améliorer l'instrumentation. Bon, c'est vrai qu'on peut dire qu'on pourra faire quelques trucs sur le VLT, mais bon, le VLT, il doit faire aussi beaucoup d'autres choses et dédier le plus grand des télescopes disponibles à la communauté européenne pendant 6 mois à faire de la sismologie, je crois qu'on n'y arrivera pas.
Non, c'est clair. Merci Agnès. S'il y a encore d'autres questions ou des informations, des éclaircissements? Non? Eh bien, alors on te remercie encore une fois, Annie. Merci beaucoup.
Rien. Merci à vous.
Et merci d'être venus ce soir si nombreux. Donc rendez-vous le mois prochain pour le Soleil. avec Jean Mouette et Serge Couchon.